Bien, je vous propose qu'on redémarre tout de suite parce qu'on est assez pris par le temps. Et donc, si vous pouvez vous réinstaller sans bouger trop les chaises. Et je vais passer tout de suite la parole à Marie-Josée Fleury, donc, qui est professeure à l'Université McGill à Montréal, pour nous parler de planifier, évaluer les transformations des systèmes de santé mentale. À vous, la parole.
Alors, merci beaucoup. Ma présentation va être assez différente de celles qui ont été présentées ce matin. Donc, je ne vais pas vous parler du rétablissement ou du recovery. Alors, je vais vous parler un peu plus de recherche ou en fait d'évaluation, me demander de vous présenter un peu comment on pouvait évaluer un système de santé mentale. Alors, je vais vous parler de l'évaluation à partir de mon expérience comme chercheur, mais aussi à partir de mon expérience, j'ai eu la chance d'accompagner les travaux de ce qu'on appelle, je vais vous le définir un peu plus loin, là, ce qu'on appelle le commissaire à la santé et au bien-être. C'est une instance décisionnelle qui a été mise en place, en fait, en 2005, et c'est une instance qui a été mise en place pour évaluer la performance du système de santé et des services sociaux. Alors, mais principalement, ce que je vais vous présenter, c'est trois sources de connaissances pour évaluer les systèmes de soins qu'on peut mobiliser, en fait, pour évaluer le système de santé mentale. Et je vais principalement m'attarder, vous allez voir qu'une de ces sources de connaissances, ce sont les banques de données clinico-administratives et qui sont souvent utilisées pour mettre en place des indicateurs de performance. Donc, je vais vous parler beaucoup, je vous dirais, des banques de données clinico-administratives et des indicateurs de performance. Et bien sûr, je vais vous parler de l'expérience du Québec, mais je pense qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec ce qui se passe en France, avec vos propres banques ou vos propres indicateurs. Et je vais terminer par vous présenter un schéma qui représente un peu un certain nombre de balises clés de la planification des services ou de l'évaluation d'un système de santé mentale. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du commissaire à la santé et au bien-être. On a beaucoup de ce type d'instances-là un peu dans différents pays. C'est vraiment des instances qu'on a tendu à mettre en place dans les dernières années pour évaluer et monitorer les systèmes de santé mentale, et pas juste santé mentale, santé et services sociaux et leur performance. Nous, donc, au Québec, on a mis en place cette instance-là, comme je vous disais, en 2005. C'était vraiment une instance qui visait à évaluer la performance du système et faire des recommandations, et même dans les recommandations, faire des priorisations de recommandations pour améliorer le système. Le commissaire a fait une série de travaux. D'abord, il a fait des études au niveau de l'évaluation de la première ligne. Est-ce que la première ligne au Québec ou les soins primaires sont bien consolidés? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la performance des soins primaires? Le commissaire a aussi travaillé sur les maladies chroniques, sur la pérennité, la petite enfance. Et en 2010 jusqu'en 2012, ce sont donc des travaux étalés sur 2 ans. On a donc évalué le système de santé mentale au Québec et donc mis en place des recommandations et même priorisé des recommandations pour améliorer le système de santé mentale. Et j'ai eu la chance, en tant que chercheur, donc, d'accompagner, j'étais l'expert conseil du commissaire, donc d'accompagner ces travaux-là. Donc, je vais vous en parler un peu et je vais vous parler de ma propre expérience de chercheur. J'ai eu quand même la chance d'avoir plusieurs subventions de recherche pour évaluer la performance du système de santé mentale et les réformes au Québec. Alors, ici, c'est une figure inspirée du commissaire à la santé et bien-être qui nous dit, dans le fond, qu'il y a 3 sources principales de connaissances quand on veut évaluer le système de santé mentale. Il y a des connaissances démocratiques. Je pense qu'on a été plus inspirés de ça depuis ce matin. Alors, les connaissances démocratiques, en fait, c'est quand on fait de la consultation, soit auprès des citoyens, quand on parle de citoyens, c'est vous dans la salle, ou c'est les patients, les proches, ou soit de la consultation auprès d'experts en santé mentale, cliniciens, gestionnaires, décideurs. Une autre source, et je vais vous en parler un petit peu plus là, en profondeur de chacune des sources de connaissances. La deuxième source de connaissances, c'est les connaissances organisationnelles, basées principalement sur les banques de données clinico-administratives et sur les grandes enquêtes, particulièrement les enquêtes épidémiologiques. Je vais surtout me concentrer sur ce bloc-là, donc des connaissances organisationnelles dans ma présentation. Sinon, vous avez des connaissances scientifiques. Alors, ici que j'ai résumé en 2 principaux points, soit des recensions des écrits ou soit de la collecte de données pure que souvent, quand on est chercheur, on fait. Alors, je vous parle du premier bloc, donc des connaissances démocratiques, en vous parlant un petit peu de l'expérience du commissaire à la santé et au bien-être que je vous présentais tout à l'heure. Donc, avec le commissaire, on a fait différentes séances de consultation. Le commissaire a mis en place comme trois structures de consultation au courant de son mandat de 2 ans. Et les consultations visaient vraiment à regarder. On voulait donc avoir l'opinion des personnes sur c'était quoi les problèmes du système de santé mentale et quelles seraient les recommandations d'amélioration de la performance de ce système-là et même de prioriser si on avait, parce que c'est sûr que je pense que quand on veut implanter des changements, il ne faut pas non plus viser à implanter 10 millions de changements en même temps. Ça ne va pas marcher. Il faut vraiment se concentrer sur un certain nombre de changements implantés et vraiment y aller d'une façon un peu plus structurée. C'est ce qu'on a fait dans l'exercice avec le commissaire. Donc, vraiment de prioriser les grands chantiers de réorganisation du système de santé mentale. Puis je vous dirais quand même que les travaux du commissaire ont vraiment influencé la prise de décision sur notre réforme en santé mentale au Québec. Donc, pour vous parler un peu plus en détail des trois structures de consultation qu'on avait mis en place, donc on a mis en place d'abord ce qu'on appelle le forum des citoyens. Je vous dirais que c'est une structure, en tout cas que moi je trouvais fort intéressante. C'est en fait une structure où on a fait un appel à toute la population québécoise, donc les personnes qui étaient intéressées à siéger au niveau de cette structure. Donc c'est un processus très formalisé pour les personnes, là, s'ils étaient sélectionnés ou non dans cette structure-là. Et on a donc sélectionné 27 membres de la communauté parmi les citoyens pour siéger au niveau de cette structure. Je vous dirais que les critères de sélection des membres du forum, c'est que les personnes devaient au moins représenter toutes les régions sociosanitaires du Québec. Au Québec, on a 18 régions sociosanitaires et on devait aussi y retrouver au moins un tiers d'experts au niveau de la santé et des services sociaux. C'était les critères principaux. Et on a fait donc 3 rencontres durant le mandat, en fait 6 rencontres, 3 rencontres annuelles, donc 6 rencontres durant le mandat de notre évaluation du système de santé mentale. Des rencontres donc de 2 jours où on a vraiment posé des questions aux citoyens, à savoir qu'est-ce qui n'allait pas au niveau de notre système de santé mentale et ce qu'on devrait réformer. On avait aussi fait 2 séminaires d'experts de 2 jours, un séminaire avec les principaux chercheurs qui exercent et qui travaillent en santé mentale au Québec, et un autre séminaire, je vous dirais, avec des cliniciens, des gestionnaires qu'on a identifiés, sur une trentaine de chercheurs, une trentaine de gestionnaires décideurs pour encore répondre aux mêmes questions, les principaux problèmes de notre système de santé, les recommandations pour l'améliorer et les priorisations. Et en fait aussi, comme troisième structure de consultation, on a consulté aussi, je vous dirais, les principales associations qui exercent en santé mentale, soit les associations de psychiatres, de médecins omnipraticiens, des autres intervenants psychosociaux, particulièrement les psychologues. On a beaucoup d'organismes communautaires aussi au Québec, des organismes sans but lucratif qu'on a consultés, et bien sûr les patients et les proches. Maintenant, donc, je vais vous parler du deuxième bloc de connaissances, soit les connaissances organisationnelles à partir des indicateurs de performance et des banques de données administratives. Donc, je vous dirais qu'il y a de plus en plus de pays qui ont mis en place des mesures d'évaluation de leur performance de système de santé mentale. On peut penser, par exemple, à l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada. Les indicateurs permettent le monitorage des transformations et s'inscrivent dans les tendances internationales visant à améliorer l'efficience des systèmes de santé mentale et la diminution des troubles mentaux. Quand on veut développer des indicateurs de performance pour un système, je vous dirais qu'on regarde principalement 3 types de critères. Les critères étant les suivants, l'importance clinique de l'indicateur, c'est-à-dire est-ce que l'indicateur permettra de suivre l'évolution de l'état de santé, démontrant notamment une amélioration après l'introduction de changements. On regarde aussi la validité. Est-ce que l'indicateur représente bien ce qui doit être identifié et ce sans biais ou au moins des biais minimaux? Et la faisabilité. Est-ce possible et facile de colliger l'information sur cet indicateur? Je vous dirais que principalement, on utilise les grandes banques de données et les enquêtes épidémiologiques pour mettre en place des indicateurs pour suivre la qualité de notre système de santé, principalement parce que les grandes banques de données clinico-administratives sont probablement ce qui est plus facile à colliger. C'est déjà colligé. C'est sûr que ça implique quand même des efforts de jumelage, des efforts d'analyse, mais c'est des données qu'on peut facilement disposer. Et je vous parle un peu de l'expérience du Québec à partir de ces grandes banques-là. Vous avez, je suis persuadée et je le sais, ces mêmes types de banques-là en France, sauf qu'elles portent d'autres noms que les nôtres. Alors, la principale banque de données qu'on a au Québec, c'est la banque de données qu'on appelle la RAMQ, donc la Régie de l'assurance maladie du Québec. Alors, comme vous, nos médecins, la plupart de nos médecins sont payés à l'acte. Donc, à toutes les fois qu'un médecin fait un acte, donc on enregistre donc une donnée de ce que fait le médecin et des diagnostics. Donc, à partir de cette grande banque-là, on peut générer beaucoup d'informations sur, en fait, la clientèle. Quel genre de clientèle on a, santé mentale, et aussi des informations sur des pratiques de soins. Je vous donne un peu plus d'exemples. Qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de la banque de données qui est la RAMQ? Donc, on peut tirer on peut faire un portrait, par exemple, des âges, des groupes d'âge, des patients ayant des troubles mentaux, leur sexe. On peut regarder aussi leur niveau de défavorisation matérielle et sociale. C'est un indicateur très intéressant. Vous avez le même indicateur aussi en France. Alors ici, on peut décortiquer la population en quintiles de pauvreté et de richesse. Et ça peut être intéressant de comparer est-ce que les plus pauvres soient autant de services que les plus riches, même si on est dans un système public en France et au Québec. Souvent, on voit, comme nous, à travers, j'ai fait beaucoup de travaux sur les urgences. Je vais vous en parler un peu plus loin. Les urgences, on dit souvent que c'est le baromètre de la qualité du système de soins. Et dans nos travaux sur les urgences, on voit vraiment que c'est souvent les personnes les plus défavorisées qui se présentent aux urgences. On peut aussi repérer la population par territoire, puis voir s'il y a une équité territoriale aussi dans la dispensation de services dans notre population. Bien sûr, à travers les banques de données administratives aussi, on peut décortiquer les diagnostics. Alors, nous, au Québec, je vous l'ai présenté un peu dans ma présentation sur le système de santé au Québec mercredi. Nous, vraiment, on a un système très hiérarchisé, très structuré, très formalisé. Et nous, vraiment, on considère qu'il y a deux types de troubles mentaux, les troubles mentaux graves et les troubles mentaux courants. Et dépendamment de ces troubles-là, il y a vraiment une organisation de services spécifiques qui répond à ces deux différents types de troubles, parce que c'est des profils de clientèle et des besoins différents. Et on a mis beaucoup d'emphase ces dernières années sur améliorer les services pour les patients ayant des troubles mentaux courants, dépression, anxiété, mais tout en quand même continuant à intervenir massivement sur pour aider les personnes qui ont des troubles mentaux graves. Donc, dans les banques de données, on peut décortiquer tous les types de diagnostics. On peut même aller voir les troubles de l'adaptation. On peut décortiquer aussi les addictions, drogue, alcool. On peut aussi pondérer les troubles concomitants. On a de l'information sur les personnes qui ont des troubles, qui ont des maladies physiques aiguës ou chroniques. On peut aussi avoir des algorithmes de sévérité pour savoir la sévérité des patients pris en charge dans le système. On peut donc avoir aussi l'information sur les pratiques de soins, l'utilisation des urgences, des psychiatres, des autres spécialistes en santé mentale autres que les psychiatres. Également à savoir est-ce que la clientèle va beaucoup au niveau des cabinets privés, cliniques médicales, des médecins en service ambulatoire ou en service spécialisé. Au Québec comme en France, on a aussi une autre banque de données qui s'appelle Medeco, qui est une banque de données sur les hospitalisations. Donc, on est capable de voir le pourcentage de population qui est hospitalisée, la durée des hospitalisations, les raisons d'hospitalisation qui sont classées en raison principale ou raison secondaire, où on a une vingtaine de diagnostics possibles. On a aussi une banque de données sur les urgences. C'est une banque très intéressante. On a, par exemple, dans cette banque-là, la priorité au triage. Je vous dirais que c'est une information intéressante. Je ne sais pas si en France vous avez ça, mais nous, dans les urgences, on a une échelle de priorisation de 1 à 5. Et les priorisations 4-5 sont vraiment des patients qu'on considère qui ne devraient pas aller aux urgences, mais devraient consulter en service ambulatoire. Et je vous dirais que nos données nous indiquent qu'il y a environ 60 % de la clientèle qui se présente aux urgences qui sont classés 4 à 5, donc qui ne devraient pas se retrouver aux urgences, mais être pris en charge dans le système de santé d'une façon générale. Je vais vous parler un peu plus tard d'indicateurs de qualité, et ça, c'est un indicateur de qualité. Quand on a 60 % de nos patients qui viennent à l'urgence, ça nous dit que probablement qu'ils ne sont pas suffisamment ou bien pris en charge par le système de santé mentale. Donc, dans la banque sur les urgences, on retrouve aussi le temps d'attente à l'urgence. Je ne sais pas, vous, en France, mais au Québec, c'est vraiment un problème important. Les gens attendent beaucoup aux urgences. On va aussi avoir les raisons des visites à l'urgence, donc les crises suicidaires, une information qu'on n'a pas à partir des autres banques. Et une donnée aussi intéressante, c'est qu'on va avoir aussi des informations sur la référence après la visite à l'urgence, qui est aussi un proxy de la coordination du service. Est-ce que l'urgence se coordonne avec son réseau? Et surtout, on ne veut pas que le patient syndrome de la porte tournante aux urgences revienne tout le temps à l'urgence, et je vais vous parler de ce problème-là un peu plus loin. On a aussi une banque de données qui est ICLSC, où l'on, en fait, les ICLSC au Québec, nous, c'est nos organisations qui donnent des services psychosociaux. Je vous dirais qu'on a des bonnes équipes de santé mentale depuis les dernières années. En fait, dans la réforme en cours, en santé mentale, on a créé vraiment des équipes dans tous les territoires, des équipes de travailleurs sociaux, de psychologues, de médecins généralistes, donc vraiment des équipes importantes là, au niveau des services psychosociaux. Donc, on va chercher les épisodes de soins, les types et l'intensité des services reçus, etc. Tantôt, je vous parlais d'indicateurs de qualité. Ce qui est intéressant aussi à partir des banques, c'est qu'on peut en tirer des indicateurs de qualité. J'ai eu la chance de travailler, de faire des travaux au niveau de l'urgence. Comme je vous disais tantôt, l'urgence, c'est un peu le baromètre de la qualité des services de santé. J'ai aussi des travaux qu'on va entamer sur les services de première ligne et les services spécialisés. Et on peut, à travers les banques de données, élaborer des indicateurs de qualité, d'accès, de continuité, d'adéquation des soins. Je vous donne quelques exemples d'indicateurs qu'on peut élaborer qui nous donnent vraiment une idée si notre système de santé fonctionne bien ou pas bien. Alors, au niveau de l'accessibilité, par exemple, on a un papier qui va sortir peu sur les urgences. Alors, ce qu'on a regardé, nous, c'est est-ce que le patient rentrait directement à l'urgence, c'est-à-dire dans une période de 12 mois, il n'avait pas du tout consulté de médecin. Parce que c'est sûr que je vais parler tantôt des limites des banques de données, et une des limites de banques de données, c'est qu'on va pratiquement juste chercher de l'information sur les médecins, soit généralistes, soit spécialistes. Alors, mais je vous dirais que c'est un indicateur de non-accessibilité si la personne passe directement par l'urgence et n'est pas prise en charge dans une période de 12 mois par un médecin. Alors, un autre indicateur aussi d'accessibilité, pour vous donner un autre exemple, on a regardé, est-ce que le patient qui venait à l'urgence, est-ce que dans une période d'une semaine précédente, avait été voir son médecin de famille? Alors, ça aussi, c'est une proxy, parce qu'en théorie, les bonnes pratiques nous disent que le patient devrait aller voir son médecin, et c'est suite à une visite médicale qu'on devrait pouvoir évaluer si le patient a vraiment besoin d'aller à l'urgence ou non. Parce que c'est sûr que pour nous, au Québec, comme on a des temps d'attente, je ne sais pas vous en France, mais des temps d'attente assez élevés entre la référence de médecin généraliste au spécialiste, c'est sûr que nous, on a un système hiérarchique, contrairement à vous. On ne peut pas avoir accès directement à nos spécialistes, nos psychiatres, mais il faut passer par la première ligne. Donc, je vous dirais qu'il y a un temps d'attente assez important entre la première ligne et l'accès au psychiatre. Et parfois, c'est un détournement de passer par l'urgence. Quelques exemples d'indicateurs de continuité qu'on a aussi élaborés dans nos travaux et qu'on retrouve aussi dans la littérature scientifique. Par exemple, la littérature nous dit que pour les cas incidents de patients, le patient devrait recevoir au moins 3 visites médicales ou plus durant une année. Quand on parle de cas incidents, je vous dirais que dans les banques de données, on regarde, par exemple, moi, Marie-Josée, est-ce que j'ai été voir mon médecin de famille, genre en 2018? Et je regarde une période de rodage de 5 ans précédent pour être sûr que c'est un cas incident. Et à partir de l'entrée du patient dans les banques de données, je regarde est-ce que le patient a au moins reçu 3 visites. Alors, parce qu'on se dit que c'est très important que le médecin assume une continuité minimum lors du diagnostic des troubles mentaux. Un autre aussi indicateur de continuité, au moins avoir eu un contact médical dans les 30 jours après une visite à l'urgence ou à l'hospitalisation. Bien sûr, si un patient se fait hospitaliser ou vient à l'urgence, on espère qu'il va avoir un suivi médical. Et si le patient revient avant le 30 jours, c'est aussi un indicateur d'une mauvaise continuité des soins. On a différents indicateurs aussi d'adéquation. Je vous ai déjà un petit peu parlé de la notion de grands utilisateurs de services, syndrome de la porte tournante aux urgences. Bien sûr, on ne veut pas que les patients viennent toujours à l'urgence. Puis s'ils viennent toujours à l'urgence, c'est aussi un syndrome du fait qu'ils ne sont pas bien pris en charge dans la communauté. Donc, dans la lecture, on retrouve comme proxy des grands utilisateurs de services au moins avoir fait, je vous dirais, de 3 à 4 visites à l'urgence durant une année. On peut regarder aussi les patients qui viennent d'une façon récurrente à l'urgence. Ça aussi, c'est pas normal qu'un patient vienne à tous les années à l'urgence. L'hospitalisation de plus de 30 jours est aussi désignée comme une hospitalisation qui devient pratiquement inefficace. Donc, on devrait, la littérature nous indique qu'on devrait hospitaliser nos patients. Oui, c'est important, l'hospitalisation, parfois, c'est la seule solution, mais pas à long terme. Donc, on peut regarder aussi à travers les données quel est le pourcentage de la population qui est hospitalisée plus de 30 jours. Un retour aussi à l'urgence après une hospitalisation avant 30 jours. Si le patient est sorti de l'urgence puis il revient, bien, c'est un signe qu'il y a aussi une problématique de prise en charge dans le système. J'essaie de passer un peu plus vite. On a la chance, je vous dirais, au Québec, d'avoir un système qui est le système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec. Donc, c'est vraiment une banque de données qui est gérée par notre Institut national de santé publique. Et c'est très intéressant parce que c'est une banque de données où toutes les données que je vous ai présentées plus tôt sont jumelées. Donc, on peut vraiment facilement ressortir de l'information pour l'ensemble de la population québécoise. Et pour vous donner un petit exemple, donc encore à partir des travaux de l'urgence, on a suivi... Au Québec, on est un peu plus de 8 millions de populations, donc on a pu vraiment suivre les 8 millions de populations et on a regardé à travers une année c'était quoi le pourcentage de personnes qui avaient des troubles mentaux. On a sorti que 12 % de la population avait des troubles mentaux, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans les études épidémiologiques. Et donc, on a pu suivre une cohorte de 850 000 personnes et la comparer aux personnes qui n'avaient pas de troubles mentaux. Et on peut sortir ainsi des chiffres fort intéressants. Nos données nous indiquent que 2 fois plus de populations qui consultent les urgences, qui ont des troubles mentaux, si on les compare à la population sans troubles mentaux, ou c'est 2 fois plus d'hospitalisation, 2 fois plus de durée d'hospitalisation, etc. On possède aussi au Québec, et je suis persuadée que vous possédez aussi ces mêmes systèmes-là en France, des données qui sont plus des ressources financières et humaines, par exemple les pourcentages des fonds investis en santé mentale versus dans les autres programmes de santé. On a un benchmark qui nous dit qu'on devrait au moins investir 10 % du budget santé et services sociaux en santé mentale. C'est un benchmark canadien. Aussi, un autre indicateur qu'on peut regarder, c'est les dépenses gouvernementales investies en santé mentale par capita ou par individu. Les pourcentages de fonds aussi investis en santé mentale entre les territoires pour voir un peu l'équité entre les territoires. Le pourcentage des fonds investis aussi entre les services internes et ambulatoires. Idéalement, on devrait avoir un système qui est moins hospitalocentrique et plus axé sur les soins ambulatoires et les soins dans la communauté. On peut regarder aussi les pourcentages de fonds investis entre les services de santé mentale. On peut regarder aussi des ratios médecins généralistes, psychiatres, psychologues par population et par territoire. La force des banques de données administratives, je vous dirais, c'est leur potentiel de généralisation. On travaille sur des données longitudinales. Comme je vous disais tantôt, on a la chance, nous, de travailler sur des données de 1996 aller en 2017. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'on peut suivre l'effet des réformes. Nous, on a fait ça à travers nos recherches, vraiment prendre le début d'une réforme jusqu'à la fin de la réforme, puis voir, prendre des indicateurs de performance, d'accessibilité, de continuité, puis voir si la réforme avait contribué à améliorer l'accès, la continuité, etc. Et je vous dirais que ça implique aussi des coûts modérés. Bien sûr, les banques sont exigeantes, sont déjà existantes. On n'a pas besoin de faire de collecte de données. Les limites des banques de données administratives, ce sont surtout des données hospitalo-centriques, donc on a très peu de données sur les services ambulatoires. Elles ont bien sûr été élaborées à des fins administratives et non cliniques. On a peu d'indicateurs de processus ou de bonnes pratiques, par exemple l'utilisation des grilles de dépistage, etc. On a peu d'indicateurs aussi, comme je vous disais tantôt, sur les autres professionnels de soins que les médecins. Et on sait que les autres professionnels de soins sont extrêmement importants dans la prise en charge des troubles mentaux. Et finalement, on a peu d'indicateurs en temps réel et systématisés pour le soutien à la prise de décision ou à l'amélioration des pratiques. Quelques mots sur les grandes banques de données maintenant. Les grandes enquêtes populationnelles, vous en avez eu beaucoup en France, beaucoup aussi en Europe. Nous, on a eu la chance d'avoir essentiellement deux enquêtes de santé mentale nationale en 2002 et en 2012. Aussi, je vous dirais, quand on fait des indicateurs de performance pour le suivi d'un système, les enquêtes sont vraiment une source très intéressante à regarder. Je vous dirais que c'est une source aussi plus complète que les banques de données administratives que je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'on retrouve plein d'informations essentielles quand on fait de l'épidémiologie psychiatrique. Je vous dirais qu'il y a des déterminants très importants des troubles mentaux qui sont à regarder, comme le soutien social, le fait d'avoir un conjoint, une famille, la résilience, ou sa perception de sa santé physique, mentale. Donc, il y a beaucoup d'autres variables, l'éducation, le travail, est-ce que la personne travaille, travaille pas. Alors, ce sont toutes des informations qu'on collige très peu dans les banques de données administratives et qu'on a à travers les enquêtes, et ce qui nous permet aussi de bien suivre notre population et faire une certaine évaluation des services de santé mentale. Maintenant, pour les à peu près 5 minutes qui me restent, j'aimerais vous parler des connaissances. Il me reste 4 minutes 47 ici. Alors, j'aimerais parler des connaissances scientifiques, qui est plus de la domaine, en fait, des chercheurs. Dans les connaissances scientifiques, en fait, on peut retracer deux principales catégories de connaissances scientifiques, à mon avis, ce qu'on appelle les recensions des écrits et la collecte des données, qui est plus propre, comme je disais, à la recherche. Au niveau des recensions des écrits, je vous dirais qu'il existe plusieurs types de recensions des écrits, mais les deux probablement les plus promus à l'heure actuelle, ce sont les revues systématiques des connaissances. Ça, c'est plus au niveau qualitatif, puis au niveau quantitatif, les méta-analyses. Et je vous dirais que ce sont vraiment des façons de recenser l'information dans la littérature, qui peut être la littérature scientifique ou la littérature grise, les documents ministériaux ou publiés par les hôpitaux, ou etc. C'est vraiment, je voudrais, quand on fait ce type de revue-là, vraiment on suit une démarche là, très formalisée, très systématique. Je vous dirais que ce sont surtout des travaux qui sont faits par des chercheurs, mais de plus en plus aussi par des organisations pour le soutien aux pratiques et à la prise de décision. Ce qui m'emmène à vous parler très rapidement des différentes méthodes de recherche. En fait, il existe une multitude de méthodes de recherche quand on est chercheur. On a des études épidémiologiques, d'évaluation de programmes, d'implantation, des études économiques, de coefficacité, etc., des études d'outcome qui intègrent différents devis, je vais passer ça rapidement, et qui intègrent aussi différentes collectes de données. Principalement, on peut faire de la collecte de données qualitative ou de la collecte de données quantitative, mais de plus en plus aussi, une nouvelle façon de faire, c'est faire de la recherche mixte. Donc, on utilise à la fois des données quantitatives et qualitatives, et je vous dirais qu'on veut bien évaluer les systèmes de soins, le système de santé mentale. Je pense que c'est la méthode la plus appropriée de prendre des devis de recherche mixte. Et bien sûr, il y a toute une panoplie de collecte des données qu'on peut faire. Je termine sur cette figure. Qu'est-ce que nous dit cette figure-là? Ça vous présente un modèle d'évaluation d'un système de santé mentale. Je vous dirais qu'il existe à travers la littérature une multitude de modèles existants pour évaluer les systèmes de soins. Ce que je vous présente est un des modèles les plus simples, mais les plus utilisés, les plus connus, qui est le modèle de Donabedian. C'est un modèle qui a été fait pour évaluer la qualité des soins, pas seulement en santé mentale, mais dans tout type de système. Ce que nous dit ce modèle-là, c'est que la structure, puis je vais vous parler un petit peu plus là, des composantes, donc la structure influence les processus et influence les outcomes. J'ai rajouté à ce modèle-là les besoins, qui me semblent absents. Je pense que c'est important. Toute bonne planification de l'organisation des services devrait partir d'abord des besoins. Et quand on parle des besoins, je pense que c'est extrêmement important de faire attention. À mon avis, il y a deux types de besoins, ce qu'on appelle les besoins individuels, les besoins cliniques, et les besoins populationnels d'une population. Et je vous dirais que malheureusement, les deux sont un peu en opposition. C'est comme le concept de continuité et d'accès, c'est un peu en opposition. Plus qu'on donne de continuité à un patient, plus que ça en enlève de l'argent dans un budget fixe pour l'accès à d'autres patients. Donc, il faut toujours faire attention entre l'équilibre entre l'individuel et le populationnel. Et pour vous figurer un peu plus ce qu'on retrouve dans les différents blocs, structure, processus, outcome, donc dans les structures, on retrouve les ressources disponibles, Je ne sais pas pour ceux qui étaient là mercredi dans ma présentation, je vous ai présenté un réseau intégré de soins. C'est un peu quand on fait la planification des services ou l'évaluation des services, on regarde dans notre système les ressources disponibles et on évalue les ressources disponibles, matériel humain, technologique, la gamme de services aussi qu'on a et les lacunes en termes de gamme de services. On regarde aussi les pratiques qu'on a déployées ou les stratégies d'intégration entre les différentes organisations ou professionnels de soins. Les processus font plus référence aux dimensions reliées à la qualité des services, niveau d'implantation, fonctionnement des services. Est-ce qu'on a un leadership suffisant dans notre territoire? La coordination aussi entre les équipes, les services. Et bien sûr, quand on regarde les outcomes, qu'est-ce qu'on regarde dans un système de santé mentale? C'est est-ce qu'on a moins de troubles mentaux qu'on en avait avant? Donc, en termes de pourcentage dans la population, est-ce que les taux de mortalité ont diminué? Les taux, notamment aussi au niveau du suicide, on sait que le suicide, c'est vraiment une problématique très importante en santé mentale et c'est très corrélé, le suicide, avec les troubles mentaux et l'addiction. On regarde aussi est-ce que nos populations qui ont des troubles mentaux ont un meilleur niveau de fonctionnement ou est-ce qu'ils sont plus rétablis? Et on regarde aussi des concepts comme la qualité de vie, la satisfaction de la clientèle, etc. Et je suis à 0 minute. Voilà.
Merci beaucoup de cet exercice difficile et contraint en termes horaires.